Merci, Madame la Présidente. C'est la première fois que je prends la parole. Cette semaine, j'aimerais donc vous féliciter pour assumer la présidence et je vous apporte tout l'appui de ma délégation dans la conduite de vos travaux. J'aimerais aussi vous remercier d'avoir convoqué cette session sur la réduction de risques qui est une préoccupation clé pour nous tous. J'aimerais remercier les panélistes pour leur excellente présentation. Il est tout à fait approprié de discuter de cette question ici à la CD. Comme nous l'a rappelé le secrétaire Bell, le point 2 traite de la prévention de la guerre nucléaire et toutes les questions connexes. C'est précisément notre conception également de la réduction de risques. Comme par le passé, nous avons vu à quel point cela peut paver la voie vers le désarmement. Le Royaume-Uni et l'examen intégré que nous avons effectué reconnaît l'importance de la réduction de risque et réaffirme que nous allons continuer à travailler au niveau international pour réduire le risque de conflit nucléaire, pour renforcer la confiance mutuelle. Nous allons poursuivre tous les éléments de réduction de risque stratégique, la promotion de mesures de confiance, la prévisibilité au niveau du dialogue, l'amélioration de la compréhension, l'établissement d'outils de prévention et de gestion de risque. L'année 2022, dans cette étude qui a été rafraîchie, notamment il y a 10 jours, parle de réduire le risque de mauvais calcul et d'incompréhension, établir un dialogue pour assurer la transparence sur les intérêts et les doctrines militaires. Pendant la guerre froide, ces mécanismes ont donné à toutes les parties un haut niveau de confiance pour éviter tout mauvais calcul dans l'échange nucléaire. Nous allons continuer à établir des lignes de communication très fiables en matière politique et militaire pour qu'en temps de crise, il y ait des canaux efficaces pour éviter l'escalade. Et ce sera un effort à long terme de notre part. Nos panélistes ont parlé de plusieurs domaines de réduction de risques et de leur impact. Et surtout, nous sommes d'accord avec ce qu'a dit M. Bell sur l'importance de la transparence, tant au niveau des États dotés qu'entre les États dotés et les États non dotés. Et nous sommes également d'accord avec l'ambassadeur Vénin sur le rôle central de la non-prolifération pour réduire le risque nucléaire. Un nombre croissant d'États dotés vont augmenter le risque d'utilisation dans les affrontements et les guerres régionales. Et ce sont ces mesures qui vont apporter davantage de sécurité, une sécurité inhérente. Et il est important de s'inspirer également des personnes ayant des expériences au niveau de la gestion de ces matériaux. Toutes les parties ont un intérêt à éviter les défis de prolifération. Cela signifie une mise en œuvre par tous les États des normes les plus élevées de sécurité et de sauvegarde nucléaire. Et donc, je ne puis ne pas répondre dans ce contexte aux distorsions et déformations des faits présentés par la Chine, notamment quant à la volonté de l'Australie d'acquérir des sous-marins nucléaires dans la région du Pacifique. Je pense que le distingué délégué de la Chine connaît bien les défis dans cette région. Toutes les parties travaillent de près avec l'AIEA afin de veiller à ce que les sauvegardes de l'AIEA soit respectée dans le cadre de ce programme. Et le directeur général de l'agence a lui-même dit qu'il était plus que satisfait par le niveau de transparence et de coopération de la part des trois parties impliquées dans ces programmes. Si le délégué de Chine est véritablement préoccupé par la transparence, alors je l'exhorte à se rapprocher de notre temps. Il connaît bien les stocks de matériel fissile et d'ogives nucléaires de son pays. Et il sait que, en fait, la Chine n'a jamais voulu, a été très réticente à partager les détails de son programme. Il pourrait peut-être me corriger sur ces faits. Et maintenant, sur la réduction de risque nucléaire, il y a d'autres domaines également où le Royaume-Uni est très impliqué. Il y a tout d'abord la réduction des cadres temporels pour la prise de décision, des temps compressés de prise de décision pour augmenter le risque de décisions dangereuses et limiter le temps d'action. les avertissements quant aux erreurs humaines soulignent l'importance de maximiser le temps dont on a besoin pour évaluer les renseignements et pour entreprendre des mesures d'atténuation. Des postures de préparation, par exemple, et l'utilisation de systèmes duals également qui peuvent rendre moins visibles les lignes de démarcation entre différents types d'armes utilisées. Et la communication en tant que crise également, des mauvaises interprétations qui peuvent donner lieu à des escalades non intentionnées et sur la base de mauvais calculs, ce qui est magnifié par les temps de crise où les lignes de communication inefficaces peuvent renforcer les ambiguïtés quant au comportement des autres États et où les canaux normaux de communication peuvent faire l'objet de sabotage. Et par conséquent, les actions entreprises de toutes les parties pourraient faire l'objet de mauvaises interprétations et mal comprises et provoquer des réponses disproportionnées sur la base de mauvais calculs. La communication en temps de crise doit être complétée également par des communications de routine et des échanges d'informations dans le cadre des mesures de transparence. Et dans un environnement multipolaire toujours plus complexe, le dialogue continu permet de gérer et d'aborder les questions dans le cadre des relations sécuritaires. Les événements récents, et notamment l'attaque agressive de la Russie contre l'Ukraine et les actions de la Russie n'ont fait que souligner l'importance de ces éléments. On voit une réduction, la réduction de risque de catastrophe comme étant l'une de nos premières responsabilités. Il est de notre devoir de tous de travailler à réduire ce risque qui a été instauré depuis 1945. Même si ces mesures sont rendues difficiles, elles sont néanmoins plus que jamais nécessaires. Monsieur Kamara a la raison de dire que ces mesures ne peuvent exister isolément du contexte, mais il faut tenir compte aussi des technologies qui sont à la base de cela. Les mesures de risque ne vont pas se substituer au désarmement nucléaire. La réduction de risque est cruciale en soi, mais les mesures de réduction de risque peuvent également paver la voie vers le désarmement en créant la confiance entre les États dotés, en créant un environnement de réduction des stocks nucléaires et en réduisant également la prévalence de ces armes nucléaires dans les doctrines militaires. Cela est tout à fait en ligne avec les traités de non-prolifération et appuie nos efforts collectifs à soutenir le désarmement et de ne pas réduire la sécurité pour tous. Donc, il s'agit là d'une responsabilité collective et le Royaume-Uni pense que tous les États ont un intérêt à réduire le risque et que la réduction multilatérale de risque allait dans ce sens. Nous saluons la contribution au débat des initiatives et de groupes de travaux existants et nous espérons travailler avec les États dotés et non dotés pour améliorer la compréhension et identifier toutes les mesures qui peuvent nous permettre de réduire le risque. Et nous saluons l'engagement continu de tous les États au niveau des discussions sécuritaires et déclarons notre